Formule 1 ou F1 est souvent considérée comme la catégorie reine du sport automobile, le but ultime de tout jeune pilote qui use ses couches-culottes sur les pistes de karting. Et comme la saison 2024 marquera la 75e saison de la discipline, eh bien on s'est dit que c'était une bonne occasion de revenir sur son histoire. Alors installez-vous en vous faire monter le temps.
Roads? Any roads where we're going? But we do need a racetrack.
De mai 1950, le 13 pour être exact, sur l'ancien aérodrome de Silverstone en Angleterre. L'épreuve comptait alors 26 nages, parmi lesquels Giuseppe Nino Farina et Juan Manuel Fangio.
Down goes the checkered flag for first man home, and it's Alfa Romeo's number 2, Giuseppe Farina. A 1-2-3 triumph for the cars from Italy.
A noter que ce premier Grand Prix voyait l'absence d'un acteur de marque, Ferrari. Et oui, si la Scuderia est aujourd'hui la plus ancienne écurie et celle ayant participé au plus grand nombre de courses, eh bien, il faudra attendre la deuxième manche de la saison à Monaco pour voir trois voitures flanquées du cheval cabré sur la grille de départ.
À Monaco, sur le circuit tracé en pleine ville, 20 concurrents prennent le départ du classique Grand Prix automobile. Les premiers kilomètres sont couverts à toute allure. Jusqu'au virage du bureau de tabac, où, sur un dérapage de Farina, 9 voitures s'emboîtent littéralement les unes dans les autres. Plus de peur que de mal, mais 11 pilotes seulement restent en course à la fin du premier tour.
Silverstone, Monaco, deux rendez-vous mythiques du calendrier, auxquels s'ajoutent Spa-Francorchamps et Monza, qui eux aussi étaient déjà présents lors de cette première édition du championnat, qui ne comportait alors que 7 épreuves, le rêve. Enfin 7, si on ne compte que les courses inscrites officiellement au championnat, parce que sinon, eh bien, on atteint le nombre de 22 manches. Mais bref, sachez juste qu'à l'époque, eh bien, les courses hors championnat étaient monnaie courante. A noter que c'est Monza qui détient le record de présence au calendrier, puisqu'il a accueilli pas moins de 73 Grands Prix contre 69 pour Monaco. L'Italie qui occupe donc une place de choix dans l'histoire de la Formule 1, d'autant eh bien, que le premier champion du monde est lui aussi originaire de la botte, en la personne de Farina au volant d'une Alfa Romeo. En revanche, eh bien, c'est une écurie anglaise qui décrochera le premier titre des constructeurs qui lui sera créé quelques années plus tard, en 1958. Et c'est à Van Hall que revient l'honneur d'inscrire son nom en tête de liste devant Ferrari. D'ailleurs, c'est la Scuderia qui détient le record de titres constructeurs avec 16 couronnes au total, et vous me direz que quand on est là depuis le début, eh bien forcément, ça aide. Et sur le podium, on retrouve deux autres écuries mythiques, trois même, puisque Williams est deuxième avec 9 couronnes mondiales, suivent ensuite McLaren et Mercedes ex aequo avec 8 titres chacune. Et puisqu'on parle de constructeurs, eh bien à l'époque, les équipes portaient les couleurs de leur pays. C'est pourquoi les Ferrari sont rouges et non jaunes, que les teams anglais roulaient en vert, que la France était en bleu, etc. Une tradition héritée des courses du début du XXe siècle dont est originaire la Formule 1 qu'on connaît aujourd'hui. C'est en 1946 que la Fédération Internationale de l'Automobile, la FIA, met sur pied un règlement de formule de course internationale A, rapidement abrégé en Formule A puis en Formule 1, à l'aube de la saison 1950, qui est d'ailleurs la première à porter l'appellation de championnat du monde. Aujourd'hui encore, c'est la FIA qui est garante de l'aspect sportif du championnat, tandis que la partie commerciale est gérée par la FOM, qui depuis 2017 est détenue, elle, par Liberty Media. Mais tout cela, on y reviendra sans doute dans un prochain épisode, donc n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast via votre plateforme de streaming favorite, à liker, à commenter, à partager, à activer les notifs, bref, vous connaissez la musique. Et vous vous en doutez, la Formule 1 de l'époque est bien différente de la machine bien huilée qu'on connaît aujourd'hui. Son histoire pourrait être divisée en plusieurs périodes qui mériteraient toutes un, voire plusieurs épisodes. Mais le but ici étant de vous proposer une introduction, eh bien, je vais tenter de rester le plus concis possible. Ainsi, les 10 premières années ne sont pas simples et le succès pas franchement au rendez-vous. Si bien que pour les saisons 1952 et 1953, la FIA ouvre les grilles aux voitures de Formule 2, la catégorie inférieure. Une décennie qui est dominée par un homme, Juan Manuel Fangio. En cette saison, l'Argentin va remporter pas moins de 5 titres mondiaux avec 4 constructeurs différents, un record, Alfa Romeo, Ferrari, Maserati et Mercedes. Et quand El Maestro ne gagne pas, eh bien, il termine tout simplement deuxième. Ce qu'on ne sait pas en revanche, eh bien, c'est si les spectateurs de l'époque se plaignaient au Café du Coin que c'est en fait. Au début, la Formule 1 pourrait être qualifiée de championnat de moteur, puisqu'il faut bien dire l'aérodynamisme des voitures est plutôt rudimentaire. La première petite révolution technique viendra d'ailleurs du bloc propulseur, ou du moins de sa position. Puisque en 1959, l'écurie Cooper surprend tout le monde en plaçant le moteur à l'arrière. Ce qui nous amène aux années 60 et 70, qui marquent le début des innovations aérodynamiques cette fois, et les plus importantes sont à mettre au crédit de Colin Chapman, le patron du Team Lotus. Le châssis monocoque, c'est lui. L'effet de sol, toujours lui. Les sponsors titres, c'est encore et toujours lui. Donc oui, on pourrait dire que Visa, Cash App, RB, c'est un petit peu de sa faute.
C'est nul !
Chapman est aussi parmi les premiers à poser des ailerons sur les Formule 1, avec Brabham et Ferrari. Lotus, c'est aussi un nom indissociable de celui de Jim Clark, qui est un petit peu le Fangio des années 60. Avec 25 victoires en 44 Grands Prix terminés sur 72 disputés et 3 titres de champion du monde, avouez, c'est plutôt pas mal. Clark, c'est aussi une victoire à Indianapolis en 1965, année de son troisième titre. Finalement, le seul trophée qui lui manque, c'est celui de Monaco. Une course remportée à 5 reprises par Graham Hill, surnommé d'ailleurs Monsieur Monaco. Il qui est le seul pilote à détenir la triple couronne, une victoire en principauté ou un titre de champion du monde de Formule 1. Là-dessus, tout le monde n'est pas toujours d'accord. Vainqueur de l'Indy 500 et des 24 heures du Mans. Le binôme Hill-Clark, c'est aussi la première vraie rivalité de la Formule 1, même si on est bien loin de l'atmosphère pesante qui régnera quelques années plus tard entre Prost et Ayrton Senna.
You've travelled most of the way this season behind Jim Clark Graham. What would you say is his most outstanding characteristic as a racing driver?
Well, I think getting across the line first.
On ne peut pas parler de Lotus sans évoquer Jochen Rindt, puisque l'Autrichien est en effet le seul pilote sacré champion du monde à titre posthume en 1970. Il faut dire qu'à l'époque, la sécurité des Formule 1 en général, et peut-être oserait-on dire des Lotus en particulier, était bien loin des standards actuels.
25 drivers start every season in Formula 1. And each year, two of us die. What kind of person does a job like this? Not normal man for sure.
Et cela nous amène à parler de Jackie Stewart, le pilote écossais connu pour avoir remporté 3 titres mondiaux et avoir battu le record de victoires de l'époque avec 27 succès total, est aussi un pilote marquant dans l'histoire de la Formule 1 puisqu'il a été parmi les premiers à s'inquiéter de la sécurité dans le sport. Ce n'est pas pour rien qu'il a décidé d'arrêter sa carrière en 1973, suite au décès du Français François Sévère, qui était son équipier chez Tyrrell et qu'il considérait comme son successeur.
À cette époque, sur la sécurité, était le plus gros challenge auquel j'ai dû faire face. Je veux dire, on a perdu tellement de pilotes et rien n'était fait. Les voitures étaient très fragiles. Les Lotus, par exemple, étaient particulièrement fragiles et beaucoup de pilotes sont morts au volant de Lotus. J'ai conduit pour BRM qui était très solide, ainsi que les Tyrrell. Le danger était si évident que les choses devaient changer, mais rien ne se passait.
Mais Stewart, eh bien, c'est aussi le premier pilote professionnel au sens où on l'entend aujourd'hui. Il était en effet bien loin de l'approche Klopp-Beck d'un James Hunt ou même d'un Keke Rosberg par exemple. Une approche plus pragmatique de la course qu'on retrouvera chez Niki Lauda ou encore chez Alain Prost par exemple. Et puis Stewart a également été le premier à signer un contrat de sponsoring personnel. poussant finalement un peu plus loin le concept de Colin Chapman pour ses voitures. On a évoqué en début d'épisode qu'à ses débuts, la Formule 1 était avant tout un championnat de moteur, puisque outre le pilote, c'était quasiment le seul élément différenciant en termes de performance sur les voitures. Eh bien, les années 70 seraient plutôt une période d'aéro. À l'époque, la moitié de la grille est propulsée par le Ford Cosworth DFV, qui sévira dans la discipline de 1967 à 1983 en raflant 10 titres mondiaux des constructeurs et en terminant le reste du temps en deuxième position. Mais en 1977, un petit constructeur français allait lancer une révolution en débarquant dans le championnat du monde avec un moteur turbo. Ce constructeur, c'est Renault et la fameuse voiture jaune et noire, renommée Yellow Teapot par les Anglais, en raison de la fumée blanche qui s'en échappait lors des nombreuses casse-moteurs des débuts. Et si Renault n'a jamais remporté le championnat durant ce premier passage en Formule 1, eh bien d'autres constructeurs ont suivi la voie du moteur turbo avec plus de succès, et c'est ainsi le trio BMW Brabham Piquet qui imposera cette technologie en 1983 devant la Renault d'Alain Prost. A l'époque, l'écurie fondée par Jack Brabham, qui est le premier pilote propriétaire d'écurie, est dirigée par un certain Bernie Ecclestone. Bernie Ecclestone, voilà encore un personnage qui aura droit à un épisode complet tellement il y a à dire. Mais en gros, Bernie, eh bien, c'est l'homme qui a vu le potentiel commercial de la Formule 1. Ancien pilote plutôt moyen, arrivé dans les paddocks en tant que manager, notamment de Jochen Lindt, avec qui il avait une véritable relation d'amitié, eh bien, Ecclestone rachète Brabham au début des années 70 et décide de s'associer avec d'autres patrons d'écurie pour former la FOCA. Ce qui lancera un bras de fer avec la FIA et la FISA, encore une fois, on en parlera parce que c'est un petit peu compliqué, pour les droits commerciaux de la discipline. Et du coup, en 1981, Ecclestone signe les premiers accords Concorde qui entérinent la séparation des pouvoirs entre l'aspect sportif et l'aspect économique de la Formule 1. C'est ainsi que désormais les circuits devront payer pour accueillir une course et que les télévisions devront-elles négocier avec Tonton Bernie pour diffuser le championnat et ce en intégralité désormais, plus question de se contenter d'une course de temps en temps. Si bien qu'en 1987, il revend Brabham pour se concentrer complètement à la gestion économique de la discipline. Tout cela va marquer le début d'une certaine professionnalisation de la Formule 1, en mettant petit à petit fin à ce qu'on appelait l'ère des garagistes. Désormais, toutes les écuries doivent construire leur propre châssis, plus question en effet d'acheter une voiture au voisin et de lui accoler un sticker sur le museau pour dire « Elle est à nous ». Mais comme les équipes touchent désormais une partie des revenus de la discipline, via les droits télévisés notamment, eh bien elles peuvent se permettre d'investir dans des infrastructures pour construire leur propre monoplace. Et si on devait retenir une seule chose des années 80, même si c'est sans doute un petit peu réducteur, eh bien ce serait le duel entre Alain Prost et Ayrton Senna chez McLaren lors des saisons 1988 et 1989. Une rivalité qui se prolongera l'année suivante, 1990, alors que le Français avait rejoint Ferrari. Prost et Senna, c'est un petit peu le choc des cultures, deux approches, deux visions diamétralement opposées de la course. Prost, le pragmatique, face au bouillant Ayrton Senna. Une opposition qui fait encore fantasmer aujourd'hui de nombreux fans et dans laquelle le professeur semble presque systématiquement jouer le rôle du méchant. Bien entendu, vous vous dites que c'est un petit peu plus compliqué que ça, tout n'étant pas tout noir ou tout blanc. La disparition du Brésilien en 1994 marquera profondément le grand cirque de la F1 et sera le point de départ d'avancées importantes en matière de sécurité. Si certaines de ces mesures prises dans la précipitation seront franchement ridicules, comme par exemple l'ajout d'une chicane au pied du raidillon à Spa-Francorchamps, d'autres en revanche seront plus judicieuses. Les crash tests obligatoires pour pouvoir prendre le départ d'une course seront de plus en plus stricts et l'inspection des tracés accueillant le championnat de plus en plus minutieuse. Des progrès à mettre au crédit de Max Mosley, qui sera président de la FIA de 1993 à 2009. C'est durant les années 90 qu'apparaît la première vraie séance de qualification, en 1996 pour être exact. Avant cela, il y avait deux séances d'essai le vendredi et le samedi, et on prenait les meilleurs temps pour établir la grille de départ. Désormais, une seule séance d'une heure avec 12 tours maximum par pilote. Le format changera de nombreuses reprises jusqu'en 2006 et le format Q1, Q2, Q3 qu'on connaît aujourd'hui. 1996, c'est également l'année où Michael Schumacher rejoint la Scuderia Ferrari. Un binôme qui va marquer le début des années 2000 avec 5 titres consécutifs permettant à l'Allemand d'égaler Fangio avec 5 couronnes mondiales avant de le dépasser en portant le record à 7.
And I thought no one will ever do that, but Michael Schumacher's done it today, and he wins his 61st Grand Prix, and he's a 5 times World Formula 1 champion. This is history.
Les années 2000, c'est aussi le retour en masse des constructeurs avec BMW, Toyota, Renault, Jaguar ou encore Honda qui se réengagent soit comme écurie d'usine, soit comme motoriste avant de prendre la poudre d'escampette en 2009-2010 suite à la crise économique mondiale. Mais avant cela, Renault, qui a remporté quelques titres comme motoriste dans la décennie précédente, avec Williams notamment, s'adjuge enfin des titres mondiaux en tant qu'écurie 100% française, cela en 2005 et 2006 avec un jeune pilote espagnol nommé Fernando Alonso. Les années 2010 marquent la recherche constante de spectacles, tout d'abord avec l'apparition du DRS qui permet de réduire la traînée en ligne droite lorsqu'on est à moins d'une seconde de la voiture devant, mais aussi avec l'arrivée du manufacturier Pirelli comme fournisseur unique de pneumatiques à qui on demande de produire des gommes qui s'usent rapidement et perdent tout aussi rapidement en performance, le tout est bien pour augmenter le spectacle. Si depuis 2010 on a eu quelques belles saisons, comme en 2012 ou en 2021 pour ne citer que ces deux-là, paradoxalement la Formule 1 a été dominée par deux écuries en 13 ans, Red Bull et Mercedes. L'écurie autrichienne trustera les premières places de 2010 à 2013 avec le jeune Sébastien Vettel, avant de s'incliner face à la marque à l'étoile à partir de 2014. Le constructeur allemand a mieux négocié le passage au V6 turbo hybride que son homologue français, et ne laisse que des miettes à la concurrence, tout en laissant ses deux pilotes Hamilton et Rosberg se battre en piste avec, il faut bien le dire, quelques moments de tension comme lors du Grand Prix de Belgique 2014 ou encore en Espagne 2016 où les monoplaces grises ne finiront même pas le premier tour.
Turn 3 we go, and it's Nico Rosberg, and Hamilton's onto the grass, and Hamilton's had a massive crash, and he's crashed into his teammate. The two Mercedes come together as Hamilton tried to pass on the inside, and he can cover his hands over his eyes, and he won't want to see that again.
En 2021, Red Bull reprend son duel de justesse avant de remonter confortablement sur le trône de la Formule 1, avec le retour de l'effet de sol, signant une saison 2023 à record avec 21 succès en 22 courses, dont 18 rien que pour Max Verstappen. Une domination qui rappelle celle de McLaren en 1988, qui, tout comme Red Bull, n'avait perdu qu'une seule course, remportée là encore par Ferrari. Comme quoi, l'histoire est un éternel recommencement. Et pour conclure, hors sport, il est impossible de ne pas boucler cet épisode en évoquant le rachat de la Formule 1 par Liberty Media début 2017. Le départ de Bernie Ecclestone sera synonyme de modernisation de la communication du championnat avec une présence accrue sur les réseaux sociaux, le lancement de la série Drive to Survive sur Netflix et d'une plateforme de streaming pour suivre l'intégralité des séances en direct.